Vous écoutez RFI, il est 18h à Paris et Amsterdam, 17h temps universel.
Fabien Albert.
Benjamin Netanyahou reconnaît avoir donné son feu vert pour l'attaque des beepers contre le Hezbollah libanais. Une guerre au Proche-Orient, toujours en cours et dont les répercussions se font sentir en Europe. Cette semaine à Amsterdam, des chants racistes ont été entendus et des supporters israéliens ont été agressés. Aujourd'hui, malgré l'interdiction, des dizaines de manifestants pro-palestiniens étaient dans la rue. Autre guerre, celle entre la Russie et l'Ukraine. Selon l'armée britannique, le mois d'octobre a été le pire jamais connu par Moscou en termes de pertes humaines, ce qui n'empêche pas la Russie de grignoter du terrain. Au banc des nations, depuis leur retour au pouvoir à l'été 2021, les talibans participeront bien à la COP29 en Azerbaïdjan. La délégation afghane sera à Bakou à partir de demain pour le sommet annuel sur le climat. Enfin, nous irons au Chili à la fin de cette édition, un pays frappé par l'inflation galopante, une inflation en partie due à la fin du gel des tarifs sur l'électricité. La tension ne retombe pas à Amsterdam. Des dizaines de manifestants pro-palestiniens ont été interpellés ce dimanche dans la capitale néerlandaise. Ils sont descendus dans la rue malgré l'interdiction de manifester en vigueur tout le week-end après les violences commises jeudi soir contre des supporters de football israéliens. Les précisions de Laxmi Lotsta.
Sur la place du Dam, dans le centre d'Amsterdam, des centaines de manifestants, drapeaux palestiniens à la main. Ils scandent des slogans en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Parmi eux, le militant Frank van der Linde. Il a tenté de faire autoriser la manifestation, mais le juge a maintenu l'interdiction, expliquant que le risque de nouvelles violences était toujours possible. La police, présente en nombre, leur a demandé de quitter les lieux. Si la plupart se sont exécutés, des dizaines de personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Les policiers ont fait usage de leur matraque. Les manifestants ont été évacués à bord de bus. La chanteuse néerlandaise Sophie Strat était également sur place et elle fait partie des personnes interpellées. La maire d'Amsterdam annonce qu'elle prolonge l'interdiction de manifester de 3 jours jusqu'à jeudi. Laxmi Lotsta, Bruxelles, RFI.
La guerre au Proche-Orient et les populations libanaises et palestiniennes toujours acculées. Au Liban, au moins 40 personnes sont mortes. Hier, aujourd'hui, une frappe israélienne a fait au moins 23 morts, dont 7 blessés à Beyrouth. Une autre a tué au moins 12 personnes dans l'est du pays, selon les bilans du ministère libanais de la Santé. Des dizaines de morts également dans la bande de Gaza lors de 2 frappes distinctes. L'armée israélienne a aussi ciblé un appartement qu'elle dit appartenir au Hezbollah libanais à Damas, en Syrie. Au moins 7 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. De son côté, Benjamin Netanyahou a donc reconnu avoir donné son feu vert à l'attaque des beepers contre le Hezbollah libanais. Le premier ministre israélien qui dit être sur la même ligne que Donald Trump concernant l'Iran. Il dit avoir déjà échangé au moins 3 fois par téléphone cette semaine avec le futur président américain. Le mois d'octobre a été le pire pour l'armée russe en termes de pertes de soldats depuis le début de la guerre avec l'Ukraine en février 2022, selon le chef d'état-major britannique. Dans une interview accordée à la BBC, le chef des armées britanniques a précisé le coût humain, mais aussi ce que représente en termes de dépenses cette guerre en Ukraine.
So at the tactical level...
Au niveau tactique, la Russie paie un prix très élevé pour l'invasion illégale de Poutine. Le mois d'octobre a été le mois le plus meurtrier pour la Russie jusqu'à présent. En moyenne, plus de 1500 personnes ont été tuées ou blessées chaque jour, et ce, pour de minuscules portions de territoire. Il ne fait aucun doute que la Russie réalise des gains territoriaux tactiques, ce qui exerce une pression sur l'Ukraine, qui doit envoyer davantage de personnel sur la ligne de front et qui subit également la pression des attaques aériennes et des missiles à longue portée. Ceux-ci ont un impact sur leur infrastructure énergétique, ce qui, une fois de plus, affecte le moral de la nation. Mais à un niveau plus élevé, il faut revenir à la Russie consacre actuellement plus de 40% de ses dépenses publiques à la défense et à la sécurité. C'est plus que ce qu'elle consacre à l'éducation et à la santé réunies. C'est un énorme gouffre pour la Russie en tant que pays.
Le chef d'état-major britannique, l'amiral Tony Radakin, propos recueillis par Romain Lemaresquier. Vladimir Poutine, lui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, promet un soutien total et continu de la Russie aux pays africains dans différents domaines. Déclaration devant les hauts responsables d'une 50aine de pays africains réunis à Sotchi ce week-end pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Développement durable, lutte contre le terrorisme, santé et gestion des catastrophes naturelles. Vladimir Poutine dit espérer et renforcer l'ensemble des liens russo-africains, lui qui a organisé et présidé deux sommets Russie-Afrique en 2019 et 2023. Le vote est clos, place maintenant au dépouillement sur l'île Maurice dans l'océan Indien. 1 million d'électrices et d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche lors de législatives anticipées. Le verdict est attendu demain. Cela se jouera vraisemblablement entre le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth et son challenger Navin Ramgoolam. Une chose est sûre, la mobilisation était au rendez-vous. Elle est annoncée à plus de 80%. Le rendez-vous annuel sur le climat, lui, s'ouvre demain à Bakou, en Azerbaïdjan. COP 29, où pour la première fois depuis leur retour au pouvoir, les talibans afghans participeront aux discussions, a priori avec un statut d'observateur. Un pas important pour Kaboul, qui militait pour que sa mise au ban de la communauté internationale ne concerne pas les questions climatiques, Simon Rosé.
C'était une demande répétée de la NEPA, l'agence environnementale d'Afghanistan. Le pays, particulièrement exposé aux conséquences du réchauffement climatique, doit pouvoir participer aux négociations internationales. Faute de visa, ça n'avait pas été possible à Dubaï l'an dernier. Ce le sera à Bakou dès ce lundi. Le changement climatique étant une cause humanitaire, la rupture du dialogue entre Kaboul et le reste du monde ne doit pas s'appliquer, plaidaient les talibans. Dans les faits, l'Afghanistan est signataire de l'accord de Paris sur le climat, conclu en 2015 par un régime alors soutenu par l'Occident. À ce titre, Kaboul est tenu de respecter certains engagements comme la mise à jour tous les 5 ans d'un plan climat national et malgré le retour des talibans, ces obligations sont plutôt respectées. Le statut officiel de la délégation afghane à Bakou est encore flou. Il semble cependant qu'elle ne sera qu'observatrice sans voix aux discussions. Le pays tient pourtant à rappeler qu'il n'est en rien responsable du réchauffement climatique avec seulement 0,08% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 6e pays le plus vulnérable, il en subit pourtant fortement ses conséquences et peine à faire face aux violentes inondations et épisodes de sécheresse qui le frappent de plus en plus fréquemment.
Simon Rosé. Au Chili, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis presque 2 ans avec plus 1% pour le mois d'octobre. Selon les derniers chiffres de l'Institut National des Statistiques, sur les 12 derniers mois, le pays a accumulé une inflation de 4,7%. Une augmentation principalement due à la hausse des prix de l'énergie après que le gouvernement chilien ait mis fin en juillet dernier au gel des tarifs de l'électricité. Ce blocage des prix avait été mis en place il y a 5 ans au moment de la crise sociale. À Santiago, le reportage de notre correspondante Neila de Rouané.
En l'espace de 2 mois, Sandra a vu sa facture d'électricité doubler. Avant, je payais 18 à 20 euros par mois. Aujourd'hui, je dois payer environ 40 euros.
Et avec son salaire minimum, toutes les économies sont bonnes à faire.
J'utilise moins la bouilloire, le fer à repasser ou encore le micro-ondes et j'éteins la lumière plus tôt dans la journée.
Sandra a eu droit à une aide financière de l'État pour faire face à cette hausse des tarifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça affecte le porte-monnaie, dit Rainel.
Au lieu d'aller dans un café ou au restaurant ce soir, on a préféré venir au parc avec le chien.
Dans son appartement, il a également installé quelques gadgets pour diminuer la consommation d'électricité.
On a mis des interrupteurs automatiques qui se chargent à l'énergie solaire et on programme aussi le chauffe-eau pour qu'il ne s'allume que 2 fois dans la journée.
D'autres encore ont pris des décisions plus drastiques, comme Francisco. Il a vendu son restaurant et s'occupe désormais de livrer des repas lors d'événements.
Comme ça, on n'a pas de loyer, ni de coût fixe. On finit le travail et ça s'arrête là, jusqu'au prochain événement.
Une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité est attendue dans 2 mois au Chili, en janvier prochain. Naila de Rouané, Santiago, RFI.
Et autre record, celui du Bitcoin, la crypto-monnaie a dépassé ce dimanche les 80 000 dollars pour la première fois de son histoire, dopé par la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Le futur président américain a promis pendant sa campagne d'assouplir la réglementation en faveur des monnaies numériques. 74 jours et 3 heures, record à battre pour les 40 skippers qui se sont élancés en début d'après-midi pour la plus grande course en solitaire du monde. Le départ de la 10e édition du Vendée Globe dans l'ouest de la France a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Et un dernier mot de sport pour finir en football. Ça va un peu mieux pour Manchester United. Les Red Devils se sont imposés 3-0 face à Leicester. Les Mancuniens qui accueilleront après la trêve internationale leur nouvel entraîneur, le portugais Ruben Amorim. Et puis dans le choc de la journée en Angleterre qui oppose en ce moment Chelsea à Arsenal, à l'approche de la mi-temps, le score est toujours de 0-0 dans ce derby londonien. Il est 18h10 ici à Paris.